France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Raymond Depardon. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Comeau nous parlera du livre « Éclat et l'acquis » de Marine Schneider, qui a reçu hier la pépite d'or au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Affaires en cours, le streaming est une des plus grandes sources de pollution contemporaine. Marie Sorbier en parlera avec le réalisateur Adrien Pavillard. 19h50, Affaires à suivre. En compagnie ce soir du photographe Omar Victor Diop, le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Florent Bujon et Dalia à la prise de son. Bonsoir Raymond Depardon.
Bonsoir.
L'atelier EXB publie un recueil de vos photographies intitulé « Entre-temps », image dont une postface de Serge Toubiana essaye de percer le mystère, nous en parlerons. Ça me donne l'occasion en tout cas de vous accueillir ce soir pour essayer justement d'approcher le secret d'un parcours, le secret d'un regard, le vôtre, qui nous permet, alors pour citer cette phrase d'Éluard présente dans le livre, de voir qu'il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. Comment vous entendez cette phrase d'Éluard, vous, Raymond Depardon?
Oui, ben c'est une. Faut pas oublier de s'en servir. C'est là qu'on s'aperçoit que la photographie est quelque chose d'assez particulier. C'est un art très moderne, quoi. Parce que en 1978, quand je me suis présenté à Magnum, je sais qu'au meeting, c'était des photographes américains. J'étais pas là, mais ils ont posé la question de savoir si j'avais fait des photos près de chez moi, en bas de chez moi. J'ai eu honte.
Pourquoi ?
Ben parce que je me suis dit, mais oui, c'est ça. J'en avais jamais fait. Je faisais aucune photo à Paris. Je partais dans le monde entier, puis je rentrais, j'osais pas. Et puis je savais pas faire aussi. Donc, dans un environnement effectivement très... Henri était toujours en vie, et puis il y avait Robert Franck, il y avait plein d'autres photographes que j'aimais beaucoup. Je me suis dit, il faut que je commence à faire des photos des gens que j'aime, des cafés, des choses comme ça. Ça a été pour moi une révolution, quoi. Et là, pour se préparer ce livre, j'ai fait deux tas. Un tas où, pour les séparer, je suis parti d'un critère complètement arbitraire. Est-ce que j'ai dormi à l'hôtel ou j'ai dormi chez moi? Alors là, ce premier tas qu'on voit entre-temps, c'est j'ai dormi chez moi, a priori, quoi. Voilà. Et donc, c'est pour un peu séparer, parce que c'est très important, je crois, effectivement... De se dire que est-ce que je vaux quelque chose, est-ce qu'il y a, il faut que je photographie toujours le pape ou Brigitte Bardot ou je sais pas quoi, Giscard d'Estaing ou un homme politique ou une catastrophe pour faire des photos. Donc effectivement la question se posait de pouvoir faire des photos en temps faible, hein, comme ça, des temps normaux, et ça m'a permis aussi de photographier les gens que j'aime autour de moi et de garder une photographie et de bien photographier. Et voilà, ça c'était un challenge qui a été important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que quand je dis c'est un art moderne, la photographie, parce que c'est incroyable. Parce que en cinéma, j'ai pas eu ce problème. On monte un film. D'ailleurs... Quand je raconte, en 78, j'étais un reporter, je rentre à Magnum, j'avais déjà fait un peu quelques films, et puis j'ai fait très vite reporter et tout ça. Et donc j'ai fait une vingtaine de films. J'ai assisté à tous les montages de mes films. Ce qui fait plusieurs années. Donc à plusieurs années où je me suis trouvé dans le dos du monteur et qui me disait, et j'ai appris, en fait. Le plan de coupe, le plan qui raccord, tout ça, je savais pas, je connaissais pas bien tout ça. Parce qu'il m'a dit, il arrêtait et il me montrait, il disait, si tu avais arrêté la caméra là, tu vois, et puis tu aurais redémarré là, on gagnerait du temps. Ah, je dis, ah bon, mais c'est quoi, pourquoi je gagnerais du temps? Bon, bah, c'est le raccord, et effectivement, c'est pour ça que j'allais quand même voir je m'imprégnais bien des films de fiction, et particulièrement des films de fiction muets, parce que le découpage est magnifique. C'est des découpages merveilleux. Et c'est vrai que, voilà, et c'est vraiment quelque chose de très, très différent. Martine Franck m'avait demandé de commenter un film que Henri avait fait en Espagne. Il était parti avec Capa.
C'est Henri Cartier-Bresson, on précise.
Henri Cartier-Bresson, bien sûr. Et pour, il était fasciné, il voulait être cinéaste. Il voulait filmer. Mais il savait pas filmer, il bougeait tout le temps, c'était une catastrophe, je sais pas quoi. Et il est parti en Espagne avec Capa, et puis ce film est inregardable. Et à la fois, moi, je voyais les photos qui se faisaient. Parce qu'il filmait comme ça, 2 secondes, 3 secondes. Et c'est un peu dommage. Bon, voilà, c'est comme ça l'histoire. Et c'est vrai que c'est deux tempos différents. Et c'est vrai que d'assister à tous mes montages me permet aussi aujourd'hui, de découper, voilà, le réel. Au fond, on est tous à le vivre comme ça, plus ou moins à le subir quelquefois. Mais c'est vrai que, il n'y a rien de plus dur, peut-être, que de photographier. Moi, je m'en suis aperçu, ça fait plus de 40 ans que je vis avec Claudine, de photographier Claudine. Comment je la photographie? Sans qu'il y ait non plus un regard caméra, faut la surprendre, mais que ce soit une photo. Alors, maintenant, peut-être qu'on fait ça avec des téléphones, mais il y a eu toute une époque, on faisait ça avec un appareil. C'est pas tout à fait le même appareil que le reporter. On était très Nikon à l'époque, c'est un appareil réflexe de Don McCullin à Gilles Caron. C'est étrange, c'est les photographes qui sont les plus courageux que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Ils allaient au Vietnam, ils étaient à un mètre, 2 mètres d'un DJI, et ils étaient au réflexe. Ils regardaient, un peu comme les grands caméramans russes, du cinéma russe, comme ça. Ils filmaient, ils cadraient comme ça. C'est des cadreurs comme ça. Et puis, après, moi j'ai vu que pour faire des photos, pour pas trop déranger les gens, il valait mieux un appareil un peu plus discret. Donc voilà, le Leica est fait plus pour faire ça, pour faire sa petite amie, ou son ami, ses amis, sa famille, ou dans le métro aussi, ou dans un café, quoi.
On va évidemment pas revenir sur l'ensemble de votre très riche parcours de photographe et de cinéaste, Raymond Depardon, mais s'arrêter quand même sur quelques moments. Alors le cinéma qui occupait beaucoup votre temps, jeune homme, vous alliez beaucoup au cinéma, vous avez vu beaucoup de films, mais à 16 ans, il y a quand même une rencontre déterminante qui est celle de Louis Foucherand. Qu'est-ce qu'il se passe avec lui?
C'était un grand portrait de l'ancienne génération, comme ça. La chance que j'avais, c'est qu'il était de Marseille. C'était quelqu'un qui avait photographié cette maison. Enfin, bon, il était reporter. Il m'avait, je sais pas pourquoi, il était très tolérant, très ouvert, comme ça. Et cette génération, comme ça, peut-être un peu différente de... généreuse. Et il aimait pas trop, comme j'avais 16-18 ans, j'avais tendance, comme tous les gens jeunes de mon âge, j'avais un peu tendance à frimer comme ça, un petit peu comme ça. Et il voyait très bien que je trichais, là il me ramenait à zéro. C'était mon père de substitution, quoi. Et il m'a appris comme ça à faire des photos, à être un peu silencieux. Mais pas trop non plus, à bien marquer sa place, son territoire, à s'imposer. C'est compliqué parce que c'est une espèce de... faut être un peu tapis roulant, d'être là, parce que il faut être discret comme un Cartier-Bresson, mais il faut quand même être aussi quand même présent comme un douaneau. Je dirais par exemple, je me souviens qu'un jour il y avait Edith Piaf. Bon. Comme elle aimait bien les petits jeunes, elle m'a parlé tout de suite, elle m'a dit bonjour, alors comment tu t'appelles, etc. Bon. Et à la fois, il fallait que je fasse des photos quand même. Donc voilà. Et donc, il y avait cette espèce d'équilibre entre faire des photos sans trop regard caméra, posé. Et moi, j'étais pas à l'époque encore, je connaissais pas bien la photo, mais c'est vrai que on est toujours en navigue entre ces deux moments. Est-ce que la pause et puis l'instant décisif, comment dire, pour reprendre la terminologie de Henri Cartier-Bresson, c'est vrai que maintenant, moi, je suis plus pour un instant comme ça, mais un temps faible. Et c'est vrai que ça m'a aidé aussi pour faire du cinéma, ça. Parce qu'au fond, je me suis aperçu que quand on veut faire un documentaire d'une certaine qualité, en tous les cas, même avec Giscard d'Estaing. Et tout ça, tout est... On prend par exemple une campagne de Giscard d'Estaing, il est dans l'avion, il descend, etc. Mmh. Donc il y a des temps forts. Mmh. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est les temps faibles. Il faut tourner là où, forcément, il se passe pas forcément grand-chose.
Oui, je le revois assis, justement, dans l'avion, regard un peu perdu vers le hublot. Voilà. Il y a des plans comme ça.
Et oui. Et puis, un petit accident arrive, je sais pas, quelqu'un qui vient lui parler, oui. Il y a des, alors donc, c'est vrai que cette navette que j'ai fait toute ma vie entre la photographie et le cinéma, c'est, on est quelques-uns, je suis pas le seul photographe qui fait des films, ni le seul cinéaste qui fait des photos, mais nous ne sommes pas si nombreux, parce que c'est vraiment deux choses différentes. Peut-être ce qui m'a partagé, c'est ma rencontre avec Claudine, parce que
d'un Claudine coup, Nougaret, le son a pris de la place. Ça, on y vient dans un instant, Raymond Depardon, mais je voulais quand même, puisque vous parlez de cinéma, revenir sur un court-métrage qui s'appelle Yann Palach, qui est donc consacré à la minute de silence que les Pragois avaient... faite pour commémorer le premier anniversaire de la mort de Yann Palach, qui s'était donc immolé par le feu pour protester contre l'invasion des chars russes en Tchécoslovaquie. Ce passage derrière la caméra, il ouvre. Alors, il y avait eu un premier court-métrage, un Venezuela, mais Yann Palach, on voit, il me semble, l'œuvre à venir, parce qu'il y a à la fois le regard sur les gens, sur quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui est peut-être en train de disparaître, mais saisir un instant.
Oui, absolument. Et d'abord, je suis seul. Il y a Michel Honorin qui est quelque part, il y a Henri Bureau qui est quelque part, mais personne ne s'occupe de moi. En fait, je suis seul et je vois des gens qui manifestent quelque chose que j'avais jamais vu, un peu comme ça, comme une sorte de théâtre, comme ça. Ils sont immobiles. Notamment pour une minute de silence qui est vraiment sur la place Venceslas. Il s'arrête dans l'escalier du métro qui monte, il s'arrête. Et j'ai pensé à René, Marianne Bad. Donc j'aurais jamais vu ça à Paris. À Paris, on aurait fini de monter l'escalier pour faire la minute de silence comme ça. Là, il s'arrête. Il y a un côté théâtre et puis en plus, il y a une très très belle musique là, bien sûr, parce que là, ils sont forts là-dedans. Et même si je pense que c'était du Chopin, mais après j'ai remis du Valentin Silvestrov. C'est une petite anecdote dans mon dernier film, dans le film que j'ai fait là récemment. Je remets du Valentin Silvestrov, qui est un Ukrainien, qui est un musicien extraordinaire. Donc tout ça allait très bien avec Prague et Prague 68, et puis l'Ukraine, on est déjà en avance. Mais c'est vrai, à la fois il fallait pas faire non plus des photos. C'est pas en photo.
Elle n'aurait pas rendu compte de cette minute de silence, de cette immobilité.
Alors quelquefois, je sais qu'à un moment j'ai fait un plan et je suis sauvé par un clignotant. Qui marche, il me sauve mon plan parce que
on voit que c'est de l'image animée.
Parce qu'on on va encore dire, c'est Depardon est un photographe, il fait des films comme un photographe. Et puis à la fois, il faut que je fasse des panneaux. Alors ça, c'était nouveau pour moi. Mais en fait, inconsciemment ou dans une espèce de subconscient, j'ai travaillé comme un photographe. Et à la fois, ça c'est magnifique parce que. Et j'avais la bonne distance. Parce qu'il y a des points communs quand même entre la caméra et la appareil photo. Il y a la distance, il y a l'objectif. Il y a de pas trop regarder les gens qu'on filme. Un certain nombre de petites astuces comme ça. De pas les fixer. Ce qui rend un petit peu, bien sûr, parce que c'est un peu désagréable. D'ordinaire, on aimerait clair avec les gens, se présenter, leur dire bonjour, voilà. Bonjour, je suis français, je suis solidaire avec vous, bravo, formidable ce que vous faites et tout. Et tu peux rien dire, là, tu peux rien dire. Et la seule chose que tu peux faire, d'ailleurs, c'est en commun, c'est toujours comme ça. Parce que moi, je sais que j'ai très longtemps culpabilisé d'être un fils de paysan. Et puis au fur et à mesure que je me suis dit, mais finalement c'est un atout. Parce que quand je me trouve au Tchad, ou au Chili, ou peu importe, je vois des gens comme ça, il y a beaucoup de paysans dans le monde. Et comme je suis un fils de paysan, ils vont pas me comprendre, parce que je parle pas leur langue. Et je me dis, il faut les photographier parce que ces gens-là souffrent. Ils ont vraiment, et je sais ce que c'est. Et alors, bien sûr, sur son chameau, le toubou, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais comme photo? Mais je dis, cause toujours mon lapin, moi je fais la photo. Et je pense qu'un photographe, je me suis aperçu comme ça, un photographe qui serait né en ville, il serait moins culotté, moins téméraire que moi pour photographier ces gens. Et forcément, la planète est peuplée de nomades, de paysans et de gens de la terre, quoi. Mmh. Et donc, ça, en fait, finalement, quelquefois, ça m'a beaucoup rendu service.
Mais ce que vous dites là, justement, Raymond Depardon, la différence entre photographie et cinéma, c'est que la photographie capte l'image des gens, mais avec le cinéma, vous leur donnez la parole. J'ai commencé par évoquer ce film sur une minute de silence, ensuite, dans vos films,
bien sûr.
Il s'agit de faire entendre celles et ceux qu'on entend
bien
pas
sûr,
très souvent.
Bien sûr. Mais Yann, pas la chanson, c'est
oui,
pas intéressant.
Bien sûr.
Donc, c'est sûr que je me suis aperçu que, effectivement, que, donc, le hasard a fait que, effectivement, peut-être que nos amis anglo-saxons étaient peut-être un peu en avance sur nous. J'ai eu la chance de rencontrer Jean Rouch aussi, qui avait un immense... Il m'aimait bien parce que j'aimais beaucoup l'Afrique. Et donc, il m'aimait bien, comme ça. Il avait vu que j'avais vraiment crapahuté. Et puis, c'est vrai que les Américains, d'un seul coup, effectivement, les grands, les Leacock, même avant Weissman, bien sûr, parce que Weissman, il est récent, il est presque contemporain à moi, avait fait des films où, effectivement, il fallait la parole. Et la parole, ça, c'est encore autre chose que la photo et le cadre. Et je suis tombé sur un magnifique texte de Erwin Goffman, bien sûr, « Dégager l'écoute ». Alors, on le sait, pourquoi on est dans un studio, c'est parce qu'on dégage l'écoute, donc on pourrait être sur le boulevard, sur les quais, là, mais on aurait beaucoup de bruit de fond, et on m'entendrait moins bien. Et donc, en fait, c'est ça, et donc, alors, c'est pas seulement de mettre un casque ou de c'est d'avoir aussi, et je me suis aperçu, par exemple, quand je travaille avec Claudine, que presque Claudine, elle est plus Cartier-Bresson que moi. Parce que, elle perche, elle a l'air de rien, elle se met pas dans l'axe, elle gêne pas la caméra, elle gêne pas le regard des gens. Et puis les gens, ils parlent, ils racontent une histoire, et ils cherchent un regard, et ils cherchent son regard. Mais elle veut pas. Parce que elle veut pas que l'interview ou les paroles lui soient destinées. Donc elle a tout un rituel comme ça, qui est magnifique. Moi, je suis derrière ma caméra, je suis un peu protégé, je suis un peu hypocrite, mais je suis derrière ma caméra. Mais là, c'est là qu'on obtient des choses qui traversent le temps. Alors, que ce soit des photographes, des hommes politiques ou des gens qui souffrent aux urgences ou qui souffrent, par exemple, qui sont
à l'hôpital
psychiatrique, d'arrestation, comme le 12 jours. C'est difficile, mais il faut vraiment être présent et à la fois pas trop.
Alors justement, vous parlez de Claudine Nougaret, on va l'écouter, un court extrait d'un entretien qu'elle avait donné à Marie Richeux, ici même, sur France Culture, en 2020.
L'écoute, c'est pas uniquement la parole, quoi. C'est aussi la gestuelle, c'est aussi l'égard par rapport aux gens, c'est toute une attitude. Il y a des moments où on écoute bien, puis il y a des moments où on n'écoute pas bien. Il n'y a pas de généralité, je crois qu'on est tous les mêmes. On n'est pas toujours prêt à écouter les autres. Faut le vouloir d'écouter les autres, c'est pas quelque chose qui est, c'est tout un travail quoi. C'est comme pratiquer un instrument de musique, apprendre à écouter, ça se travaille, c'est toute une éthique, c'est toute une assise, une volonté quoi. C'est-à-dire que on fait des gammes, et puis un jour, hop, on a l'oreille qui s'ouvre et écouter pour enregistrer, c'est la même chose. Et tout d'un coup, vous dites, ah mais oui, c'est comme ça que je dois le restituer, c'est comme ça que je l'entends et c'est comme ça que je vais le rendre. Et moi, j'ai eu ce miracle. Un jour, j'ai senti que mes oreilles s'ouvraient.
Elles sont bien ouvertes, les oreilles de Claudine Nougaret, à n'en pas douter, Raymond Depardon. Mais ça veut dire aussi que quand quelque chose d'important se dit, il faut que l'image, si je puis dire, passe au deuxième plan.
Oui, absolument. Mais c'est complètement la folie. Quand on s'est rencontrés, j'étais plus âgé qu'elle et on s'est mariés à l'église, voilà, à Montpellier. Et puis j'ai dit, on va aller, notre voyage de noces, on va aller le passer à l'Hôtel Dieu. On va passer 3 mois à l'Hôtel Dieu aux urgences. C'est de la folie quand même. Et sans vraiment se connaître non plus. Et ça a été une merveille. Ça a donné un très très beau film. Et c'est vrai que tous les deux comme ça, voilà, il fallait pas être à 3, il fallait pas être à 4, fallait pas être... Et tout seul, j'aurais pas pu le faire. Et donc c'était 2. Et c'est vraiment le tandem. Et puis il y avait elle amène quelque chose. Elle amène quelque chose parce que voilà, on était un couple, voilà, et puis on se penche sur les autres. C'est très important aujourd'hui. Je le vois là, par exemple, il y a Eugène Richard, un photographe américain. Blanc américain qui m'a fait passer un petit mot parce que j'ai fait un débat là il y a pas longtemps en disant on peut plus raconter d'histoire. J'ai dit mais comment tu peux plus raconter d'histoire? Et à cause de la cancel culture. C'est-à-dire qu'un photographe américain comme Eugène Richard qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement engagé, eh ben d'aller photographier des noirs dans les quartiers de Philadelphie pauvres et d'en faire un livre, eh ben il est pris à partie. Il est prêt à partir. C'est-à-dire que, comment, prêt à partir, c'est pas possible. Et donc, raconter des histoires, il se dit, mais qu'est-ce que je vais raconter comme histoire? Parce qu'effectivement, avec Sébastien, lui, il peut faire la Patagonie. L'Amazonie.
L'Amazonie. Mathieu Salgado.
Moi, je peux faire aussi les paysans, bien sûr. Raymond Depardon, les paysans, etc. Donc tout ça, c'est logique. Mais est-ce qu'on peut plus, et ça c'est terrible, qu'on puisse plus, moi, c'est comme ça que j'ai grandi, je me suis amélioré, c'est en allant voir des autres, quoi, en m'ouvrant sur d'autres cultures. J'avais l'impression d'être un peu moins bête, parce que j'ai voyagé. J'étais un peu moins bête parce que j'ai vu d'autres cultures, d'autres populations, que j'ai fait des photos en Afrique. Mais peut-être que j'aurais plus le droit de faire des photos en Afrique maintenant.
Alors justement, Afrique très présente. Bon, il y avait une première incursion, si je puis dire, en Algérie avec des militaires. Vous avez crapahuté, c'était en 1960. Et puis après, il y a eu le Tchad, le Yémen, beaucoup de pays. Mais et puis il y a eu évidemment Afrique. Comment ça va avec la douleur, réalisé en 96. Avant d'en parler, justement, on écoute un tout petit extrait. On va vous entendre, Raymond Depardon.
À Addis Abeba, j'ai trouvé une voiture et un chauffeur éthiopien parlant un peu l'italien. Nous sommes partis sans préparation sur la route historique qui part de Addis Abeba jusqu'à Aksum et Gondar. J'avais envie de faire un vrai voyage, solitaire sur ces terres millénaires. J'aime cette liberté de pouvoir descendre au hasard dans ces petits hôtels, le long des routes, de faire son itinéraire tous les jours, improvisé en fonction de nos rencontres, de nos horaires, de la lumière. L'homme d'image est habité par le doute et rien ne vient le rassurer. Le champ d'investigation du regard est très large, c'est sans fin. Ici en Éthiopie, le regard est talisman et même médication. C'est l'enseignement de la sagesse telle qu'elle s'est élaborée sous les auspices du puissant roi Salomon. Je viens à la rencontre de mon image et mon image vient à ma rencontre. Elle m'accueille affectueusement et m'embrasse à mon retour de captivité. Notre rapport à l'image est une rencontre, disent les Saintes Écritures.
Extrait de Afrique, comment ça va avec la douleur? Vous pensez que vous pourriez plus tourner ce film aujourd'hui?
Je sais que mon fils, il a fait un film avec sa copine, Marie et Simon Depardon. Ils ont fait un film et là, ils ont filmé une réunion à Lyon de féministes et dans un lieu public où elles étaient masquées. Elles veulent pas. Un lieu. Alors, si on peut plus filmer, si on peut plus filmer les lieux publics sans donner le droit à l'image, ok, je veux bien, mais on peut pas dans une manifestation demander le droit à l'image à tout le monde. Donc, il faut quand même assumer comme ça. Donc, il y a quelque chose qui se passe et j'ai l'impression que qui n'arrange pas les choses, qui fait que il faut que moi, je comprends qu'on peut porter préjudice à des gens avec des photos. Bien sûr qu'il faut faire très attention. et notamment avec des populations comme ça qui souffrent, il faut faire très attention. C'est vrai que l'Éthiopie, par exemple, c'est un pays incroyable où qu'il y a les gens ont sur eux des photos ou des dessins et qui leur portent bonheur. Un peu comme nous, on a les photos de nos enfants dans notre portefeuille. Et en fait, c'est un vieux, c'est Salomon qui a inventé ça, ce que je savais pas. Et eux, ils ont toujours ça, il y a un petit rouleau comme ça avec leur famille. Et puis, donc, quand tu fais des photos, effectivement, faut aller vite, faut pas insister, il y a plein de choses comme ça, faut sourire, faut. Et bien sûr, ils vont pas voir la photo, mais toi, tu sais que cette photo, elle va permettre à communiquer, à se parler entre nous. Moi, je parle pas l'amérique, il parle pas le français, donc il y a quand même toujours quelque chose. Alors, je suis peut-être un peu un vieux humanisme, un peu rétro, un peu voilà, j'ai 80 ans. Oui, mais Raymond, maintenant c'est plus pareil. Si, moi je crois toujours en ça parce que c'est comme ça que j'aime les grands photographes, les grands cinéastes ou les écrivains. Et c'est des gens qu'ont donné. Moi, j'essaye de donner. Je suis aussi, comme tout le monde, un peu, bien sûr, égoïste. Je fais mes photos. Mais je pense que, j'espère que, et je déplore un peu que, on se méfie de la photographie.
Alors, cela étant, l'Afrique, Raymond Depardon, elle a une place quand même très singulière dans votre œuvre, dans votre vie, dans votre cœur. Il y a, à n'en pas douter, l'Éthiopie a une place singulière. Mais l'Afrique, c'est pour vous un endroit tellement à part que vous y avez tourné deux films de fiction, Un petit quarter, Une femme en Afrique en 85, La captive du désert en 90, et puis un film au statut un peu plus hybride, on va dire ça comme ça, Un homme sans Occident en 2003. Qu'est-ce qui fait que l'Afrique, et seulement l'Afrique, génère de la fiction pour vous ?
Le décor, le fond, il est extraordinaire, quoi. Ça, on rêve, enfin, c'est, quand on disait dégager l'écoute, tout à l'heure, pour la parole, le son, il y a dégager l'image. C'est incroyable, parce que vous avez une dune, avec un mec qui est là, avec sa Kalachnikov, et qui dit, viens Raymond, on va prendre Faya Largeau. J'ai dit, bon, tu dis d'accord, j'arrive. T'arrives, quoi. Mm. Et tu marches avec lui. Mm. Et tu dis, pourquoi tu veux prendre Faya Largeau? Ben, c'est un peu pour, ben voilà, moi, je veux pas une sécession, je veux pas faire un pays indépendant, je veux pas, je suis nationaliste, je, voilà, mais il faut peut-être qu'on partage un peu les richesses entre nous tous. Voilà, on est des paysans, on est des nomades, mais j'avais l'impression que Raymond, c'est toujours les gens de droit qui ont eu à l'indépendance. C'est les gens du. Il y a deux catégories. Il y a les gens du droit. Il y a aussi les matheux. Mais alors les matheux, on n'en parle pas parce qu'ils sont pas intéressés. Mais c'est forcément les gens les avocats qui ont pris le pouvoir. Tous les pays. Et nous, paysans, forcément, nomades, on n'a rien eu. Donc peut-être qu'on pourrait un peu partager maintenant. Et c'est formidable comme ça. Et quand tu leur dis, tu parles avec eux comme ça, et puis en les quittant, je me souviens toujours d'un à un comme ça, dans le Guéra, j'ai dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir que je t'amène, que je te ramène, parce que je reviens. Et il me dit, un livre en français. Je dis, un livre en français. Mais comment tu as appris le français? Ben, j'ai jamais vu de livre en français. J'ai appris le français avec un tableau noir. J'ai dit, ah, moi je suis rentré à N'Djamena, j'ai engueulé l'ambassadeur, j'ai dit, mais faut donner des livres, quoi, faut donner des livres. Vous rendez compte, ces gens, ils passent pour le français parce que pour eux, c'était le moyen de parler aux gens du Sud. Et d'exister. En l'occurrence, le Tchad, mais c'est d'autres pays, c'est pareil. Et donc, il y a quelque chose, moi, je trouve important. Et c'est vrai que, je sais pas, je suis peut-être naïf ou je suis peut-être un peu un bon bouc au primaire. J'aime l'Afrique parce que j'aime bien parler avec les Africains. J'aime aussi leur intelligence. Ils devinent tout et ils m'ont fait confiance. Je me souviens, un jour, je suis arrivé avec, il y avait Hissène Habré, il était en train de détenir une Française. Et il m'a demandé un discours devant tout le monde. J'avais jamais fait ça de ma vie, comme ça, comme un maire, comme ça. Et j'ai dit, j'espère que vous n'êtes pas que des preneurs d'otages. Et que vous êtes aussi des gens, des combattants, de la liberté, enfin, vous êtes des résistants. Et il m'a fait venir un mois ou deux après, j'étais avec eux, là, tout ça, et il m'a dit, tu as dit que nous n'étions pas, tu voulais avoir la preuve qu'on n'était pas que des preneurs d'otages. Écoute, est-ce que tu veux bien faire une opération, participer à une opération militaire avec nous? C'est un commando qui va se passer de nuit, donc tu pourras pas faire de photos, et on va attaquer Faya Largeau. On sera une centaine, eux sont 3000. Ça va être une action rapide. Et là, je ne pouvais plus dire non. Et ben, j'ai dit oui, bien sûr. Je n'ai pas hésité une seconde. Et j'ai pris mon appareil photo quand même, et ma caméra. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui fait que les Africains, l'Afrique est quelque chose d'unique, un peu... On en parle beaucoup. Jean Rouch en a fait des magnifiques films. Moi, je m'y sens bien. Et voilà. J'y retourne de temps en temps, le plus possible. J'y ai amené ma famille. Voilà. C'est là qu'ils me disent, quand je reviens un peu au bout de 6 mois, ils me disent, tu as beaucoup duré, hein. C'est une expression formidable comme ça, et donc j'ai un peu honte comme ça, mais je sais pas, ça m'a aidé à faire mes films. Ça m'a aidé à faire les films à Paris, les films sur Giscard d'Estaing, les films sur les urgences, les films sur le tribunaux, le 12e chambre, 12 jours. Ça m'a aidé à tout ça. Avec Claudine, ça nous aide. Pourquoi? Parce qu'il y a, je sais pas, quelque chose comme ça qui va à l'essentiel. Peut-être les Africains vont à l'essentiel aussi de ça, de quelque chose comme ça qui est unique un peu. Et que quand je dis le décor, bien sûr, je me moque un peu de moi, mais je pense à tout aussi, à tous ces grands cinéastes, bien sûr, comme ça, qui est aussi au photographe, comme Ueda, un photographe japonais. Et il dit, la première chose qu'il faut voir dans une photo, c'est d'abord le fond, le décor. Bon, voilà. Et donc c'est vrai que la photo est bonne si le décor est va avec.
Alors, revenons à la photo et revenons à ce livre, à l'atelier EXB, ce recueil de photographies. Entre-temps, une seule indication au début du livre, les photographies présentées dans cet ouvrage ont été prises entre 1979 et 2006. Et puis, plusieurs parties prises, la première peut-être la plus visible, aucune légende. Pourquoi ?
Parce que je les vois comme des choses abstraites maintenant, enfin, des pensées, un peu comme si c'était des phrases que j'avais écrites, comme ça, dans un carnet. Elles sont autonomes. Peu importe qui est sur la photo, peu importe, voilà, j'en ai beaucoup des photos comme ça. Et c'est très très intéressant parce que c'est là où on voit la photographie est un art moderne, parce que d'un seul coup, elles existent. Comme ça, j'en ai beaucoup, beaucoup, et c'est vraiment, je passe un temps fou. Parce que être photographe, c'est pas seulement faire des photos, préparer son reportage, publier un livre ou le vendre à la presse. C'est aussi de travailler, d'avancer sur son propre regard. Et là, je passe par différents systèmes qui sont des tirages de lecture, comme ça, que je regarde comme des cartes à jouer. J'ai des grands contacts agrandis. Et donc, tout ça, je fais pour mieux me connaître. Et puis, j'ai aussi des cobayes. Voilà. Alors, je montre ces photos à des amis qui sont des super bons cobayes. Claudine, bien sûr, est un excellent cobaye, mais il y a Philippe Séclier, il y en a d'autres comme ça, où je remonte leurs photos et je sais pas, comme ça, ils disent non, c'est là, oui, c'est là. Donc, et ça m'aide un peu à diminuer. Et ça m'aide, au fond, finalement, à parer peut-être au plus grand défaut du photographe, du capteur de réel, du cher. C'est l'instabilité, enfin, de ne pas avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi sur quelque chose qui est complètement éphémère. Une instant, une seconde. Pourquoi celle-là est meilleure que l'autre, quoi. Sur le réel, c'est difficile, hein. Parce que quand tu fais une fiction, c'est facile. Tu, la personne rentre, passe la porte et tout. Mais photographier le réel, c'est quelque chose de difficile. Et c'est vrai que j'ai besoin d'être rassuré, comme tout le monde. Et c'est vrai que de faire ce livre est vraiment, pour moi, c'est vraiment, j'y ai mis vraiment tout moi-même, parce que il y a 80 photos, là, comme ça, sur 20 ans, et qui sont faites, bon, il y a un deuxième temps qui est aussi, mais en tous les cas, elles sont, c'est mon univers, et ce sont des photos qui sont autonomes et qui tiennent toutes seules. Sans être non plus nostalgique, et qui sont voilà mon un regard. Ça a l'air de rien de dire un regard, tout ça c'est des mots quoi, bien sûr, mais la photographie, on sait qu'on aime bien la photographie, tout le monde, beaucoup en France surtout, on aime bien la photographie, tout le monde, je connais personne qui n'aime pas bien la photographie, de en province, de partout, on aime la photo, et à la fois à un moment donné, elle nous échappe et il faut effectivement qu'elle revienne un peu dans ma tête, dans notre tête. Et je crois que là, j'y ai mis toute de la prise de vue jusqu'à l'editing de ce livre. Et c'est un peu toute mon parcours personnel.
Eh bien, vous en parlez tellement bien, Raymond Depardon, parce que ce livre, c'est aussi un film, hein, d'une certaine façon. Vous avez parlé du montage, et c'est très important de dire que, au-delà du très bel objet, parce que l'atelier EXB, ça fait des très, très, très beaux livres, il nous raconte beaucoup sur vous, le temps a filé en votre compagnie, ce livre Entre-temps, publié à l'atelier EXB. Merci beaucoup, Raymond Depardon, d'avoir été ce soir notre invité.
C'était un grand plaisir.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Bonsoir Lucille Gaumont.
Et bonsoir Arnaud.
Ça tombe bien, vous êtes là, c'est l'heure d'affaires critiques, comme les choses sont bien faites. Et ce soir, vous nous parlez de l'album qui vient de remporter la pépite d'or au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil. Il s'appelle Éclat et la quille, il est signé Marine Schneider.
Oui, c'est la plus haute distinction. La pépite d'or, elle récompense un album illustré pour les enfants à partir de 4 ans, à la grande beauté plastique et au récit étrange. Au seuil de cette histoire, composée de deux parties, naît le petit Éclat, minuscule enfant orange, qui un jour de grand vent atterrit devant le grand Laki, vieillard immense et bleu qui vit seul dans une petite maison posée dans le cratère d'un vaste volcan. Au départ, le solitaire Laki le trouve bien dérangeant, ce tout petit être muet qui met le bazar dans ses livres, qui veut sans cesse sortir et explorer le lac alentour alors qu'il paraît si fragile. Mais Laki s'attache, il fabrique pour Éclat un tout petit lit à côté du sien, lui lit des histoires, s'inquiète. Il vieillit aussi. Le conte est beau, qui met en scène comme dans Pinocchio, un vieil homme qui s'achemine vers sa fin et un fils adopté, petite créature dont on ne sait pas si elle est vraiment humaine, qui lui ne vieillit pas. Au creux du livre, entre les deux parties qu'il compose, il y a la mort du vieillard, évoquée sans ménagement, mais avec cette explication optimiste, il part quand il est sûr que le petit va parvenir à se débrouiller seul, lui qui a apprivoisé le lac et ses dangers. La fable n'esquive pas le risque et la peine. J'aime beaucoup le dessin qui accompagne l'annonce de la mort de Laki. Il est représenté tout du long comme une grande silhouette dessinée au crayon noir et remplie de bleu foncé, et quand la vie le quitte, la couleur aussi, comme si on avait percé la forme de son corps et que toute la couleur s'était déversée autour de lui. Sa silhouette au milieu du bleu est intacte, simplement elle est désormais remplie de blanc, comme un fantôme ou un souvenir.
Alors vous avez commencé à nous parler de dessin, de couleur, mais à quoi ressemble formellement ce livre ?
Alors c'est une grande réussite, hein. Marine Schneider a travaillé plusieurs techniques, a réalisé plusieurs dessins avant même de les ordonner en un récit, et cette multiplicité des formats et des esthétique détermine la forme de l'album. Le texte s'adapte à cette variété, parfois l'image prend toute la page, c'est un grand format, parfois c'est une double page sur laquelle coexistent plusieurs vignettes, parfois même des petits détails isolés. Quand il s'agit par exemple de représenter la maison de Laki, il y a à la fois une double page qui montre tout son intérieur avec des portes ouvertes laissant entrevoir plusieurs pièces en enfilade, et puis sur la page d'après, sur un fond blanc, juste un détail de décoration, deux chiens sculptés qu'on imagine de faïence dont l'un est rempli de fleurs multicolores. l'or. De la même manière, les textures et les traits sont très variés. Il y a des grands aplats de couleurs et des flous pastels quand il s'agit de représenter l'extérieur. Il y a aussi des petits détails très fins, très ouvragés sur des animaux ou des végétaux, notamment sous-marins. C'est très beau et curieux à regarder. Certaines pages sont comme des plans larges, appréhensibles d'un coup d'œil. Et puis certaines fourmis de petites choses qu'on passe du temps à détailler. C'est un livre sur la nature, sa beauté, ses dangers, à l'image du volcan et du lac où habitent les personnages, qui sont à la fois des refuges colorés et ludiques et des abysses menaçantes et sombres. Ekla et Laki, ce sont originellement les noms de deux volcans islandais, dont l'un est actif et l'autre éteint. Marin Schneider, apparemment, elle a un gros tropisme nordique. Elle a déjà écrit des livres pour enfants inspirés de récits et légendes d'Europe septentrionale. Le Grand Nord, dans l'album, est une matière naturelle, fleurs, animaux, roches, cieux, toujours traité à la lisière du fantastique. Des éléments qui sont aussi une poétique et un goût pour les mots de la nature, par exemple pour, je cite, « la samare d'un érable sycomore ». Dans cet univers, on ne sait pas bien si Ekla et Laki sont des hommes. Il y a une forme de continuum très actuel du minéral à l'humain que le dessin figure simplement, à la fois rassurant et un peu effrayant, comme toutes les bonnes histoires.
Je vais chercher la définition de samare personnellement, mais donc cette recommandation par Lucille Como d'Ekla et Laki de Marie Schneider, pépite d'or cette année au Salon de Montreuil. Un livre paru chez Albin Michel dans sa collection Jeunesse. Merci Lucille Como. Marie Sorbier, bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Ça tombe bien également, puisque c'est l'heure d'affaires en cours avec vous. Ce soir, vous nous parlez des ravages du streaming.
Oui Arnaud, né dans les recoins du net dans les années 90, le streaming est aujourd'hui incontournable. Un clic ouvre nos écrans à un océan de contenu, musique, séries, films. Mais ce clic pourtant est dévastateur. Il crache 100 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et génère des montagnes de déchets. Alors deux chiffres pour en prendre conscience. Le numérique représentera demain 6% des gaz à effet de serre par an, soit autant que l'aviation. Et YouTube, autre exemple, émet 11 millions de tonnes de CO2 par an, soit autant qu'une ville comme Francfort. Alors, pouvons-nous reprendre le contrôle du streaming? Je suis allée le demander à Adrien Pavillard. Adrien Pavillard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réalisateur, vous avez co-réalisé un documentaire édifiant 4 épisodes de 15 minutes sur l'histoire et les conséquences du streaming dans nos vies et pour la planète. Vous filez d'ailleurs la métaphore en comparant cette pratique à Frankenstein. Alors, est-ce que le monstre s'est échappé selon vous? Est-ce que la créature streaming est hors de contrôle?
La créature streaming est hors de contrôle parce que on ne la voit pas. La créature streaming, elle est là, elle continue à se développer, on continue à en consommer énormément, mais on ne la voit pas. Donc, tant qu'on ne la voit pas, elle va continuer en effet à nous échapper. Mais on peut la rattraper. Il n'est pas trop tard.
Comment? Vous donnez des exemples concrets?
Déjà, en avoir conscience de ce qu'est le streaming, de ses conséquences écologiques, de ce que ça comprend en fait, comme, parce que c'est une technologie, c'est comme toute technologie, c'est ce qu'on en fait. Il n'y a pas de raison qu'elle soit plus polluante, mais elle représente aujourd'hui la quasi-majorité du trafic sur Internet.
Peut-être que vous pourriez nous expliquer en 2-3 mots ce qu'est le streaming.
Alors le streaming, c'est une technologie qui permet de lire à distance des fichiers audio et vidéo. Contrairement au téléchargement, qui était un fichier qui était directement accessible depuis notre ordinateur, là, on accède en fait, via le réseau Internet, le web, on accède à des fichiers qui sont loin de nous, qui sont sur des serveurs, dans des data centers, qui sont à des centaines de kilomètres, voire à des milliers de kilomètres de chez nous.
Les data centers, on le comprend dans votre documentaire, c'est vraiment le nerf de la guerre, hein, c'est le cœur du réacteur.
Alors, c'est le cœur de le réacteur pour faire fonctionner le streaming. En réalité, aujourd'hui, c'est de moins en moins le souci. Les data centers, ils sont devenus de plus en plus propres. Ils dépendent déjà du mix énergétique qu'on utilise, puisqu'ils fonctionnent. Tout ça est un problème d'énergie, en fait. Donc, ils utilisent de l'électricité. Tout dépend de comment cette électricité, elle est fournie. En France, on est extrêmement décarboné parce qu'on fait appel beaucoup au nucléaire. En fait, on a très peu d'émissions. Donc, c'est le nerf de la guerre parce que c'est des endroits essentiels pour le streaming, mais aujourd'hui, ce n'est pas la cause numéro un du problème écologique que peut porter le streaming.
Alors, vous l'avez dit, hein, une des problématiques difficiles à contourner pour modifier nos comportements est justement que cette pollution du streaming est invisible. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'immatériel pollue plus que le matériel aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui, c'est sûr. Il y a même une étude qui est sortie il y a quelques années qui montrait que rien qu'au niveau de la musique, on avait largement dépassé la pollution qu'on avait pu générer dans les années 70, 80, 90, avec le CD, le vinyle, la cassette, qui est quand même beaucoup de plastique, beaucoup de chimie aussi. Et ben aujourd'hui, on a dépassé ça avec le streaming, donc l'immatériel, qui n'est pas immatériel, dépasse largement, oui, le physique, on va dire.
Mais alors, qu'est-ce qui pollue concrètement? Vous dites que c'est plus vraiment les data centers, alors c'est quoi? Ce sont les objets sur lesquels on consomme ce streaming?
Ce sont les objets, oui. Quand on a commencé le documentaire avec Pierre-Philippe, en gros, on découpait comme ça la pollution du streaming, on découpait en trois. Il y avait un quart qui était dû, en fait, au data center, un quart qui était par les éléments réseau, les câbles, les relais, tout ce qu'il faut, et le restant, la moitié restante, était les terminaux sur lesquels on regarde le streaming. Et c'est vraiment ces éléments-là qui polluent. Aujourd'hui, l'ARCOM et l'ADEME ont sorti en début d'année une nouvelle étude. On est presque, dans certains cas, à 90% de la pollution est générée en fait par ces objets qui, pas trop dans leur consommation électrique, mais dans leur fabrication, sont extrêmement polluants.
Et dans leur recyclage, enfin, qui n'existe pas ou quasi pas.
Dans un recyclage qui est extrêmement limité. Le plastique se recycle plus ou moins bien. Les composants se recyclent extrêmement mal. C'est eux, en fait, qui sont vraiment à l'origine du problème. Et c'est là où il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un problème de carbone dans l'atmosphère. Ce n'est pas juste un problème de réchauffement climatique, on va dire, mais c'est un problème de comment on agit sur la planète. Et pour le coup, là, ce qui est très dommageable, c'est l'utilisation de matières premières. C'est ce qu'on appelle les terres rares, c'est tous les métaux, tout ça. Ça demande une extraction qui pose un poids énorme sur la planète. Parce que pour retirer quelques grammes de terres rares, qui sont des métaux, il faut extraire des kilos de terre. Donc c'est ça, en fait, qui pose un vrai problème, ce sont les terminaux.
Il y a une autre caractéristique, à la fois très séduisante et vertigineuse, c'est ce côté illimité. On a l'impression que tout semble infini avec le streaming. Comme tout semble à portée de main, il n'y a aucune raison de se limiter. Alors, est-ce que c'est ce caractère, justement, infini et illimité qui nous pousse vers une consommation excessive?
Moi, je pense que c'est un problème très important, l'illimité. Parce que, en effet, bah, quand il n'y a plus de limite, c'est très dur pour l'individu de s'en mettre, en fait. Si on laisse aux gens la possibilité de faire autant qu'ils veulent, et que de notre côté, on les pousse à regarder, via la promotion, etc., à regarder beaucoup de streaming, il est très difficile pour un individu de lutter contre ça. Le streaming, c'est très bien, c'est très utile, c'est addictif quand c'est pour des séries, mais c'est extrêmement utile pour apprendre des choses. Ça permet d'avoir de la vidéo aussi, par exemple, pour d'autres choses, pour le travail. On l'a bien vu pendant la pandémie, Zoom était quand même... Il n'y a pas que Zoom, mais Zoom a été quand même un élément extrêmement important pour que les choses puissent continuer, que les gens puissent continuer à travailler, puissent continuer même à se parler, à se voir, avoir des contacts. Le problème, il n'est pas là, il est dans un usage sans limite, donc on n'est pas raisonnable avec. Mais c'est très difficile de l'être.
Selon vous, est-ce qu'une des façons de donner un coup d'arrêt à la fête du stream, je reprends un des titres de vos épisodes, ce serait justement de limiter l'humain dans sa consommation?
Moi, je pense que déjà revenir à des forfaits qui peuvent être très importants, mais qui peuvent du coup coûter plus ou moins cher selon la quantité d'informations qu'on veut payer, ça permet aux gens de se rendre compte, en fait. De se rendre compte de ce que c'est. En fait, c'est tout un changement vis-à-vis du numérique, parce que le streaming, en fait, c'est... Aujourd'hui, il représente le numérique par son importance. Et donc, ça permettrait forcément de se dire « Ah bah là, je vais regarder vraiment quelque chose que je veux regarder. » Et là où ça passait devant, parce que les vidéos se déclenchent toutes seules également. C'est-à-dire qu'on fait du streaming malgré nous. Il suffit d'aller sur un fil d'actualité de n'importe quel réseau social et les vidéos, aujourd'hui, démarrent automatiquement. C'est du streaming.
Nous pouvons vous retrouver pour un débat au Centre Pompidou à Paris pour continuer cette conversation. Ce sera le 3 décembre à 18h30 dans le cadre du Forum Climat « Quelle culture pour quel futur ?» Et votre film « Frankenstream », ce monstre qui nous dévore, est visible actuellement sur Arte librement. Merci beaucoup Adrien Paviard.
Et merci à vous Marie Sorbier. Comme chaque soir, nous quittons ce studio, nous quittons Paris pour prendre des nouvelles d'artistes qui présentent leur travail un peu partout en France ou à l'étranger. Ce soir, nous sommes en ligne avec le photographe Omar Victor Diop. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous présentez actuellement deux séries photographiques au festival Planche Contact de Deauville. Il y a également une exposition en cours à la galerie Mania A à Paris. Revenons à Deauville. Première série, Odysseia, le résultat d'une résidence à Deauville. Alors, tout d'abord, Omar Victor Diop, qu'est-ce que cette immersion, ce temps long dans une ville permet de voir et qu'est-ce que vous avez suivi une méthode pour arpenter cette ville?
Alors, cette immersion m'a permis de manière étonnante de me voir en tant que voyageur, de rentrer un peu dans ma tête et d'avoir cette conversation sur le thème du voyage et sur le thème de la mélancolie et de la solitude, parce que le voyage professionnel est profondément solitaire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne quitte jamais Dakar et que Dakar apparaît dans les rues de Deauville et j'ai essayé de scénariser ça.
Alors le fait est que oui, il y a cette ville tournée vers la mer, cette grande plage, et évidemment ces réminiscences de Dakar, avec dans la ville de très grands formats, parfois panoramiques, qui sont installés. Qu'est-ce que ça permet également pour vous, Marc-Victor Diop, dans la mise en scène de la photo, de travailler sur des formats aussi grands et in situ?
Cette résidence m'a permis de sortir du studio, parce que je sors de 8 ans de portraits de studio. Et donc, en fait, ça m'a permis justement d'avoir ces grands formats et d'avoir du coup la possibilité de créer des scènes où je joue plusieurs rôles, un peu comme des scénettes urbaines. Et ma foi, c'est assez génial comme nouvelle expérience.
La suite de séries Diaspora et Liberty, Allegoria, deuxième série exposée pour ce festival Planche Contact. En effet, on vous y voit, vous y mettez en scène. C'est une réflexion, comme souvent aussi dans votre travail sur l'anthropocentrisme. Vous empruntez à différents genres picturaux et qui regardent beaucoup du côté de la peinture classique, mais aussi de l'iconographie religieuse. Au départ de cette série, il y avait quel désir pour vous ?
Un désir de prendre conscience de la chance que nous avons, nous, êtres humains, d'être sur ce petit bout de caillou qui flotte dans l'univers et dont on n'a pas trouvé une copie. Il n'y a pas d'alternative à cette planète bleue, qui est la seule d'ailleurs. Et en fait, je voulais vraiment m'émouvoir positivement et m'émerveiller de la beauté de la nature dont nous faisons partie, et aussi provoquer cet émoi positif et cette prise de conscience sur le caractère sacré de la vie sur Terre et de toutes les vies sur Terre.
Concrètement, par rapport au travail de prise de vue, comment est-ce que vous travaillez, Omar Victor Diop ? Est-ce que vous faites des images dans lesquelles vous vous incrustez ? Est-ce que c'est du montage, évidemment, a posteriori ? Mais de quelle façon vous le faites ?
Alors, c'est un montage d'abord dans ma tête, parce que je ne sais pas dessiner. J'imagine les interactions que je vais avoir avec les éléments que j'apporterai à la composition en post-production. Et en fait, je shoot sur fond vert avec en tête tous les animaux et toutes les choses qui apparaîtront à l'image. Et donc, principalement sur Allegoria, ce sont des scans d'encyclopédies anciennes, d'illustrations de manuels d'histoire naturelle que je recolorie, que je recoupe, que je remodèle et que j'insère dans ces collages digitaux.
Alors, d'être exposé en extérieur, ça permet aussi des sensations très différentes, hein, pour celles et ceux qui découvrent vos images. Des images qui sont très fortement colorées, avec une gamme chromatique très très riche, mais selon qu'il fasse grand soleil sur Deauville ou si le ciel est bas et lourd, on n'a pas du tout la même perception de l'image.
C'est extrêmement intéressant comme exercice, et ce qui est encore plus intéressant, c'est de regarder les gens interagir avec les œuvres. Je me mets souvent au loin et j'observe les familles adossées aux œuvres. Je pense que Allegoria permet justement cette espèce de relation assez proche avec le sujet, mais aussi le tirage lui-même.
Oui, vous guettez les réactions du public. Il y a des choses qui vous ont surpris ?
Surpris, non, mais beaucoup de choses m'ont ému. Qui jouent assis, collés aux œuvres. Des familles qui prennent une pause en plein milieu de shopping dans les rues de Deauville. Et bon, après, ça dure jamais très longtemps, parce que malheureusement, vu que je suis très reconnaissable, on remarque tout de suite que l'artiste est pas loin.
Alors, autre exposition, je dis quelques mots quand même sur l'exposition en cours à la Galerie Mania A en ce moment, de vos images, Omar Victor Diop. Quelle sélection est présentée à la galerie ?
Alors, c'est une sélection qui porte sur 8 ans d'autoportraits. Donc, il y a 3 séries. Il y a Diaspora, Allegoria et Liberty. Donc, Diaspora et Liberty sont des séries un peu plus commémoratives qui traitent un peu de l'histoire des peuples noirs du monde et des épisodes de résistance et d'affirmation. Et puis à la fin de la série, en bas, il y a un espace qui est réservé à la contemplation, à laquelle Allegoria invite le public.
Rendez-vous donc d'une part au Festival photographique de Deauville Planche Contact qui se poursuit jusqu'au 1er janvier 2023 et en déambulant dans les rues. Sur la promenade de Deauville, on verra vos images, Omar Victor Diop. Et puis cette exposition à la Galerie Mania A à Paris, elle est à voir jusqu'au 23 décembre. Merci à vous. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Como, Marie Sorbier et Apolline Limosino.